une conférence atelier pédagogique autour du violoncelle avec Jean-Guillaume Queyras, donnée dans le cadre des rencontres musicales en Haute-Provence 2020, en partenaire avec la région et le centre astrologique. C'est un atelier qui est tenu pour une trentaine de lycéens de la région PACAR, jeudi le 23 juillet, dans la salle Pierre Michel.
Je m'appelle Jean-Guillaume Queyras, je suis violoncelliste. J'ai mon violoncelle là derrière, parce que je suis violoncelliste. Et je vous jouerai peut-être quelque chose après, des petits exemples, choses comme ça. Ben, je suis très content d'être là, je suis très content que vous soyez là. On est tous très contents, les musiciens des rencontres, l'équipe des rencontres, que vous soyez là pour cette expérience immersive dans des domaines différents et finalement... en lien finalement. Je crois que vous avez eu hier la conférence sur la musique des sphères de Stéphane Nicolet qui montre que voilà qu'on peut trouver de la musique dans l'espace, dans le grand espace, et que nous en tant que musiciens, on essaye aussi d'aller vers les étoiles. Quand on crée des sons, que ce soit avec un violoncelle ou des chanteurs ou n'importe quel instrument, et qu'on en fait notre vie, et ben finalement on a envie. On fait ça parce que, comment dire, on choisit pas ça, c'est pas un... j'ai honte de dire ça, mais c'est pas vraiment un métier comme les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment, au départ, on a cette espèce de folie quand on est enfant, de sentir que la musique, ça va être ce qui va nous relier, le moyen par lequel on va pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui, eux aussi, vibrent par la musique. Donc, voilà, moi j'ai eu ce coup de foudre quand j'avais 9 ans. J'étais arrivé ici à l'âge de 8 ans, je dis en deux mots, même si ce n'est pas le plus important. Je suis né à Montréal, ensuite quand j'avais 5 ans, on est allé, pour des raisons familiales, on est allé en Algérie pendant 3 ans. Quand j'avais 8 ans, on est arrivé en Provence. Et mon grand frère Pierre-Olivier, qui est là au festival aussi, est violoniste, et lui, il jouait déjà du violon depuis pas mal de temps. Donc la musique était là, et puis surtout mes parents étaient fous de musique. Ils écoutaient tout le temps de la musique, et mon père, qui est là derrière, écoute toujours, tout le temps, de la musique. Voilà, la musique. Jean-François. Oui, oui. Ah ben d'accord. Vous le connaissez déjà. Oui. Il est connu comme le loup blanc partout. Voilà. Et donc, la musique toujours présente quand on était à la maison. Et voilà. Et donc, à 9 ans, je suis allé à un concert de jeunes qui avaient eu un stage, je crois à Pâques, quelque chose comme ça, dans l'année. Et en fin de stage, ils donnaient un concert. Et il y avait des violonistes, des pianistes, ça. Et il y avait notamment un violoncelliste. Il y en avait peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais il y en a un qui m'a marqué, qui avait 13 ans et qui a joué le concerto de Saint-Saëns. Et qui est une des œuvres connues pour violoncelle. Voilà. Et j'étais bouche bée, j'étais fasciné, voilà, par ces notes, par ce son, par ce qu'on pouvait raconter en faisant des notes. En fait, parce qu'en fin de compte, c'est surtout ça, en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on peut raconter, même s'il n'y a pas de parole, même si ce n'est pas une chanson, même si c'est pas, voilà, avec des notes, on raconte quelque chose, avec la musique. Et donc, très vite, j'ai demandé à mes parents, je veux prendre des cours de violoncelle, je veux apprendre, etc., etc., puis ça a pris un petit peu de temps, et ils disent qu'à l'époque, j'étais un peu comme un lion en cage, jusqu'à ce qu'on me donne enfin un violoncelle, et qu'on me que je rencontre la personne extraordinaire qui allait m'apprendre à jouer du violoncelle, qui s'appelle Claire Rabier. Et elle était à l'époque professeure à Manosque, donc pas très loin d'ici. Et j'ai commencé à faire des allers-retours, aller une fois par semaine à Manosque avec le bus, avec une boîte de violoncelle qui était un peu plus grande que moi, parce que j'étais plutôt petit. Et le chauffeur de bus qui me disait toujours « Elle est grosse ta guitare ouais, !» Ça c'était quand je montrais le bus, chaque semaine. « Elle est grosse ta guitare ouais. !» Voilà. Et de temps en temps il disait aussi « T'aurais dû jouer de la flûte voilà. !» Et puis je suis allé comme ça prendre mes cours de violoncelle. Et c'est le premier professeur qui nous donne le contact avec l'instrument, c'est quelqu'un qui a un rôle super important. Parce que c'est elle qui va déterminer comment on se sent dans le rapport à l'instrument. Est-ce qu'on va être... voilà. Et en fait, on ne peut en faire sa vie et passer sa vie à jouer de cet instrument que si on a un rapport harmonieux avec l'instrument, si on se sent bien. Et cette femme, Claire Rabier, elle avait... D'une part, elle était une pédagogue fantastique. Elle trouvait les images pour dire à un gamin de 9 ans ce qui allait lui donner envie de jouer, et voir de travailler par lui-même à la maison, etc. Mais en plus... Elle avait un sens, elle m'a tout de suite inculqué le fait que la musique, c'est fait pour être partagé. C'est pas un truc qui est fait pour qu'on soit tout seul dans sa chambre. Bah, on peut avoir du plaisir à jouer pour soi-même dans sa chambre, mais au départ, la musique, c'est une communication. C'est comme la parole. Là, je suis en train de... Voilà, je communique avec vous par la parole. Et là, il y a un des nombreux moyens de le faire, c'est la musique. Et donc, j'allais toujours... pour toute une après-midi au conservatoire de Manosque, et j'avais mon cours de violoncelle où elle m'apprenait, elle me faisait travailler mes petites choses, elle m'apprenait des trucs techniques, etc. Mais aussi, je restais toute l'après-midi là-bas, et elle avait une deuxième salle où elle nous mettait tous ensemble, tous les élèves, et elle nous faisait jouer des trios, des quatuors, des quintettes, des arrangements pour plusieurs violoncelles. Et donc, on passait l'après-midi à jouer ensemble. Et tout de suite... C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la musique de chambre. La musique, c'est-à-dire des petites formations où plusieurs instrumentistes jouent ensemble et mettent les sons en harmonie. Voilà. Et donc, tout de suite, dès le début, pour moi, la musique, ça a été surtout ça. Ça a été ce partage. Alors d'abord, le partage parce que, comme je racontais, tout le monde à la maison était fou de musique et on écoutait et on était ému en entendant des cantates de Bach, en entendant des symphonies de Beethoven ou des choses comme ça. Et donc il y avait ce partage-là. Et puis aussi quand je prenais mes cours. Voilà. Puis alors, assez vite, il s'est révélé que j'avais une prédisposition, on peut appeler ça un talent, on peut appeler ça un don, voilà, qui faisait que j'apprenais vite. Et... sans doute simplement parce que j'avais cette envie incroyable. J'étais insatiable. J'avais toujours envie de jouer. J'étais, à la rigueur, bon, je faisais ce qu'il fallait faire pour l'école, mais ce que j'attendais, le moment, c'est que j'allais pouvoir déballer mon violoncelle et le saisir en main et faire les premiers sons. Voilà. Et donc, j'ai avancé assez rapidement. Et donc, je pense pas me tromper, Jean-François me corrigera si je me trompe, que déjà à l'âge de 10 ans, plus ou moins, j'avais l'intention que ce soit mon métier, que le fait de jouer de la musique, c'était ça qui allait être la colonne centrale de ma vie. Et c'est ce qui finalement s'est fait. Donc j'ai la chance de faire le métier, de faire ce dont je rêvais quelque part quand j'étais gamin, quand j'écoutais ces enregistrements, et que je me disais un jour, j'écoutais des pièces que je n'étais pas encore capable de jouer, et que je me disais un jour, je voudrais jouer cette pièce-là, avec orchestre par exemple. Hein? Il y a des œuvres par exemple qui sont, comme vous le savez, qu'on appelle les concertos, dans le classique. Les concertos, c'est quoi? C'est quand il y a un instrument soliste, qui a, disons, la partie principale, la mélodie principale, et qui est accompagnée par un orchestre. Alors, ça peut être un orchestre ça peut aller de 15 personnes à 80 personnes. Hein, ça dépend du type de musique. Et j'ai un souvenir très précis, par exemple, d'un concerto que j'ai adoré dès que j'étais tout petit. C'est un concerto de Haydn, que tous les violoncellistes connaissent, que tous les violoncellistes adorent. Il y a deux concertos de Haydn. Il y en a un qui est en do majeur. Je pourrais vous jouer le thème tout à l'heure. Et qui fait qu'on peut vraiment, quand on est gamin, déjà s'y identifier, c'est vraiment le, on l'aime beaucoup. Et notamment, il y a un dernier mouvement qui est très virtuose, qui est tout en, qui va très vite, qui est un peu comme une cavalcade. Et donc, on est, voilà, c'est comme un film haletant. Et donc, j'avais très envie d'apprendre ce, ce concerto. Et j'ai deux souvenirs à propos de ce concerto. C'est que, d'une part, j'étais en stage. J'avais deux ans de violoncelle, j'étais en stage à Grenoble pour l'été. Je faisais des stages d'été en plus de mes cours pendant l'année. Voilà, je faisais les violoncelles pendant l'année, les violoncelles pendant l'été. J'étais un petit peu obsédé, hein, ça, je ne vous le cache pas. Donc, et pendant un stage d'été, avec une professeure qui allait devenir ma deuxième professeure, qui s'appelait Reine Flachot, une dame assez extraordinaire qui a un caractère pas possible. Elle était assez petite comme ça, avec une voix comme ça, parce qu'elle fumait beaucoup. Elle fumait deux paquets par jour. Et un jour en cachette, je commençais à avoir le niveau pour jouer ce concerto de Haydn. Et j'ai demandé à un copain de me prêter la partition. Puis j'ai commencé à la prendre pour moi comme ça, mais c'était pas du tout au programme quoi. Et puis j'étais en train de lire ce concerto et dans une des pièces comme ça, c'était au Conservatoire de Grenoble, je me souviens là. Et la porte s'ouvre et Reine Flachot apparaît. Elle vient, puis elle regarde sur le pupitre la partition. Elle dit ah Haydn en une. Je m'attendais à me recevoir une rouste parce que je ne faisais pas du tout ce qui était prévu. Et elle me dit « Ah ouais, bonne idée, amène ça au prochain cours. » Donc voilà, donc mon méfait a été récompensé. Et donc, c'est là que j'ai appris ce concerto. Et quelques temps plus tard, j'ai un souvenir, je ne sais pas si Jean-François s'en souvient, mais moi ça m'a marqué, c'est que une fois que j'ai commencé à l'apprendre, évidemment que je n'avais pas d'orchestre avec lequel je pouvais jouer ce concerto. Donc il manquait cette partie vachement importante qui est l'orchestre qui accompagne, qui joue, qui fait la rythmique, qui donne toute l'énergie, qui donne tout ça. Et du coup, de temps en temps, je mettais l'enregistrement que j'avais à l'époque, qui était l'enregistrement, à l'époque c'était sur les cassettes, un magnétophone, et c'était l'enregistrement du plus célèbre violoncelliste de l'époque, et peut-être vous avez même encore entendu son nom, et même s'il est décédé maintenant il y a une dizaine d'années, mais il s'appelait Rostropovitch, c'était un grand violoncelliste russe et qui en plus d'être un grand violoncelliste, il était une personnalité très charismatique, il avait en plus, il y avait toute une histoire politique derrière parce qu'il avait fui l'Union soviétique après avoir protégé un dissident chez lui, donc il est passé à l'ouest il y a bien longtemps, en 1974, voilà, et donc il y avait tout un aspect politique dans sa personnalité, en plus du musicien. Et donc, j'avais son enregistrement du concerto de Haydn. Et régulièrement, j'appuyais sur play, l'orchestre jouait, hein, l'enregistrement. Et puis ensuite, moi, je jouais ensemble avec Rostropovitch, à l'unisson avec Rostropovitch. Je jouais le concerto, j'avais l'impression de jouer mon concerto avec orchestre. Et puis un jour, j'ai appelé Jean-François et Marie-France, donc ma mère, qui était pas très loin, parce que j'avais la chance, ils travaillaient dans leur atelier de poterie, qui était juste dans le bâtiment à côté. Je leur dis, venez, j'ai une petite surprise. Et j'ai mis la cassette en marche et je leur jouais le premier mouvement du concerto de Haydn. Voilà, mon premier concert avec le concerto de Haydn en mythe, c'était pour mes parents à la maison, avec l'accompagnement du magnétophone. Et c'est drôle parce que, encore une fois, c'est un des concertos pour violoncelle les plus célèbres, parce que c'est un chef-d'œuvre, parce que c'est génial. Il se trouve que mon premier concert post-Covid, qui a eu lieu donc il y a 3 semaines à peu près, à Munich, avec l'orchestre de Munich, c'était pas tout à fait mon premier concert, comme vous savez, maintenant il y a, en ce moment avec toute la situation, il y a beaucoup de concerts filmés sans public, mais qu'on peut voir en ligne, même si on pourra en parler, mais il n'y a rien à faire, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose que de vibrer dans une même salle à la musique. Et donc mon premier concert avec public, c'était à Munich il y a 3 semaines, Et c'était avec le concerto de Haydn en ut. Voilà, donc ma première expérience de retrouvailles avec le public, là maintenant, des décennies après cette petite histoire que j'ai racontée, bah, c'était encore une fois avec ce concerto. Voilà, bah, je ne sais pas, juste comme ça, histoire de ne pas seulement vous engloutir sous les mots, je vais peut-être vous jouer un petit peu ce concerto, juste que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà mon ami, mon violoncelle, je vous présente. Moi, je vous en dirai deux mots après, hein, sur l'instrument, sur tout ça, puis vous aurez certainement des questions. Il a 330 ans. Voilà. ne dis pas de bêtises, 1690, ça fait à peu près ça. Hein. Ouais. Vous êtes meilleur en calcul que moi.
J'imagine.
Je vous mets ici en haut pour que vous voyez un petit peu mieux. Ah. Je mets juste un petit extrait, tu sais. Et donc, ce concerto, il commence comme ça. Quelle métaphore on pourrait trouver ? C'est comme... Parce que l'orchestre, finalement, c'est lui qui détermine tout, ce qu'on appelle l'harmonie, ce qu'on appelle tout ce qui est principal. Enfin, c'est comme si on chantait une chanson très connue, mais sans toutes les notes qui sont en dessous. Alors, peut-être je vais parler un petit peu de... On va prendre un petit moment pour parler du violoncelle. Hein ? Dominique, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, alors... Le violoncelle, donc... Moi, j'imagine qu'il y a des choses que vous savez déjà, mais je les récapitule en deux mots. Ça fait partie de la famille des violons. Donc, de même que chez les flûtes, il y a la flûte soprano, la flûte alto, etc. Il y en a de plus en plus grosses. Et là, chez les violons, c'est pareil. Donc, dans l'aigu, il y a le violon, ensuite il y a l'alto, ensuite il vient le violoncelle en descendant dans le registre. Et puis, comme vous êtes... j'imagine que vous le savez, qu'évidemment, plus les notes, plus on descend vers les notes graves, plus on a besoin que la longueur de corde soit, enfin qu'elle soit plus longue, et que la taille du corps du violoncelle doit aussi être en proportion. Donc on est obligé d'avoir un instrument plus grand. Et c'est pour ça, quand on descend encore plus bas, vers la contrebasse, qui a ces sons extrêmement graves, avec des fréquences très lentes de vibration, en fait, c'est tout simplement la fréquence de vibration, ben, on a besoin d'une longueur de corde encore plus grande, et d'un corpus qui va aussi correspondre. Voilà. Et nous, on a la chance... d'être un peu la clé de voûte, on va dire. On a la chance d'avoir un instrument, comme on dit, qui couvre toute l'étendue de la voix humaine. C'est-à-dire que quand on joue nos notes les plus graves, à partir de là... Donc quand on joue les notes les plus graves, on est à la hauteur de ce qu'un chanteur de basse chante. Hein, c'est... On a la chance de pouvoir monter, ensuite... Là, on est dans ce qu'on appelle le registre du ténor, un chanteur ténor. Mais on a aussi... On peut monter jusqu'à dans les hauteurs où une soprano, une voix féminine, peut nous emmener. On peut... vraiment couvrir tout ça, et ça fait que d'une part on a la chance, nous, de pouvoir, parce que moi ce que je pense, je sais pas, souvent les gens m'ont demandé pourquoi tu as choisi le violoncelle, et en fait c'est difficile parce que quand on a 9 ans, on dit waouh, j'ai envie de jouer ça. Il n'y a pas une raison, Enfin, il y avait plein de raisons. Je ne sais pas si c'était parce que j'avais envie d'avoir un instrument d'une grande taille ou bien si c'est parce que je crois qu'une des raisons, c'est que ces sons graves, ils font du bien. C'est vrai que parfois j'ai pitié de nos amis violonistes qui n'ont pas cette chance. C'est-à-dire qu'eux, ça commence ici et ça monte. Alors évidemment, ils peuvent monter beaucoup plus haut que nous, ils peuvent aller dans le suraigu. Mais nous, on a ces notes-là et ces fréquences-là, ces fréquences lentes. Voilà, comme dit Outé, c'est là qu'on les sent, quoi. C'est vraiment, ça pose, voilà. Hein. Et voilà, et donc, il y a les compositeurs, les grands compositeurs, les génies, je pense notamment à Beethoven, par exemple, se sont rendus compte que c'était génial pour eux d'avoir un instrument qui n'est pas un instrument de basse ou un instrument qui fait la mélodie, qui est dans l'aigu, mais un instrument qui peut couvrir tout ça. Et ça a ouvert des perspectives. Beethoven est le premier, puisqu'on est dans l'année Beethoven, parlons de lui, il est le premier à avoir écrit des sonates pour violoncelle et piano, où il combine les deux instruments. Et ce qui est frappant, c'est que très souvent, il utilise cette qualité du violoncelle qui couvre toute cette étendue. C'est-à-dire qu'il y a souvent des thèmes où le violoncelle commence dans le grave et est en dessous du piano. Et puis ensuite, le violoncelle monte, tac, 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 et il passe au-dessus du piano. Et c'est le piano qui fait la basse. Et ce n'est pas juste simplement décoratif. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais pas s'il en a parlé, ça, Stéphane, dans sa conférence sur la musique des sphères, mais dans toute l'histoire musicale, il y a une hiérarchie, si je puis dire. C'est-à-dire que la basse, quand vous entendez un son comme ça, vous entendez les sons que je chante maintenant en rapport avec ces notes-là, même si vous ne pourriez pas le donner, vous entendez du Do majeur. Vous entendez en fait un accord. Donc en fait, la basse, ça détermine un peu la manière dont vous allez entendre une mélodie. Si je vous dis, par exemple, on va faire un petit un exemple. Voilà. Je chante la même mélodie maintenant. Vous entendez la même mélodie, mais dans une autre, avec un autre accord en dessous, avec une autre harmonie. Et donc, ce que fait Beethoven, c'est qu'il brouille tout ça, il fait que ce qui au départ est la basse, ah mais attends, mais ça c'est plus la basse, c'est là-haut, c'est en haut, et puis ce qui était en haut, c'est la basse, et puis ça, et ça crée quelque chose de très très fluide. Et je pense notamment à la sonate en la majeur, je vais donner un exemple, qu'il a composé à peu près au milieu de sa vie. C'était la période où il était fasciné par ça, par la fluidité de la musique, où il a composé son concerto pour violon. Et peut-être vous connaissez son concerto pour violon, qui est vraiment une de ses œuvres les plus connues. C'est trois quarts d'heure, presque uniquement des gammes et des arpèges. Donc ça commence, c'est très connu, parce que ça commence par la percussion qui fait juste... Ça, c'est le début du concerto. Et ça va être comme ça. Et le violon va jouer des gammes et des gammes montées comme ça, descend, des gammes comme ça à l'infini. Et donc, dans cette période, Beethoven, où il est fasciné par il veut que la musique coule comme ça, il compose notre troisième sonate, la troisième sonate, en la majeur. Et cette sonate, le deuxième thème, c'est une gamme au violoncelle. C'est vraiment des gammes, après que le violoncelliste fait ses exercices, et pendant ce temps-là, le piano fait des arpèges. Et comme ça, et c'est juste un arpège, une gamme comme ça qui se... Et comme vous voyez, justement, ma gamme part de tout en bas. Et au départ, je suis en dessous du piano, le piano part comme ça, et le piano descend, et moi je monte, et hop, on a inversé. Et finalement, à partir de là, C'est comme s'il relativisait la force de gravité, le bas, le haut, etc. Tout est fluide, il y a une espèce d'échange comme ça qui est très très beau. Pas pourquoi je suis parti en délire sur cette sonate de Beethoven, parce que je l'aime beaucoup. C'était pas prévu au programme. Ben voilà. Mais revenons au violoncelle. Donc ça, c'était parce qu'on parlait du registre du violoncelle. On pourrait aller. Je crois que vous avez eu la présentation d'un luthier, donc qui a dû parler de la manière dont ça fonctionne avec l'âme qui est à l'intérieur, qui transmet les vibrations, etc. Donc je vais pas m'étaler là-dessus. On pourrait en venir au fait. Je vais parler spécifiquement, peut-être encore deux mots sur ce violoncelle-là. Donc, il a été fait en 1690 à Turin par Gioffredo Cappa, un luthier italien. Et peut-être que dans la présentation du luthier hier, vous avez entendu ça. Il y a eu, on appelle ça la période d'or de la lutherie en Italie. C'est à peu près entre 1600 et 1800, pendant 200 ans. Tous les grands instruments, les instruments qui sont faits en Italie, ils avaient trouvé quelque chose, les Italiens, une espèce de recette magique, comme quand ils font un plat de pâtes comme ça, avec presque rien, mais c'est génial. Ben voilà, là c'était... ils ont fait des instruments qui sont magnifiques et qui résonnent d'une manière qui fait que nous musiciens, quand on passe l'archet dessus, on a l'impression qu'on peut dire beaucoup plus de choses qu'avec un instrument moderne fait de nos jours. Il y a eu beaucoup de tentatives pour expliquer pourquoi. Il y a des scientifiques qui sont penchés dessus. Ils ont essayé de trouver l'explication rationnelle. Pourquoi est-ce que les violoncellistes préfèrent jouer un instrument fait en Italie en 1700 ou 1750 plutôt qu'un instrument fait de nos jours, un instrument tout neuf, tout beau. Voilà. Et il y a eu des explications assez rocambolesques. Il y en a qui disaient oui, mais c'est parce qu'ils ont utilisé du bois qui était importé par la mer Adriatique. Et alors, pendant le transport sur les bateaux, le sel de la mer se posait sur le bois et le bois devenait plus dur. Et donc, voilà. Enfin bon, c'est... Et après, quelques années après, ils disaient non, mais en fait, c'est pas ça. Il y a eu l'explication la plus plausible, c'est qu'apparemment, il y a eu une espèce qu'ils ont appelée une mini-ère glaciaire. En Europe, en Italie notamment, vers 1600, à une époque où les arbres qui ont servi à produire ce bois ont poussé. Et cette ère glaciaire, ça faisait que chaque année, en fait, les arbres poussaient beaucoup moins. Et donc, comment on appelle ça en termes techniques, vous savez, avec lesquels on compte les années. Pardon ? Les cercles de croissance, merci beaucoup, et étaient beaucoup plus denses, c'est-à-dire parce qu'il y avait moins de... Donc et que cette densité, le fait que ce ne soit pas des cercles de croissance très épais et bien gonflés d'eau, au contraire, ça faisait un bois extrêmement dense qui transmet les vibrations de manière très rapide. Voilà, c'est une petite explication, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit ces instruments anciens ou les instruments nouveaux, ce qu'on note, c'est qu'un instrument, il va mettre du temps à atteindre son vrai potentiel sonore. C'est-à-dire c'est-à-dire que le fait d'être joué, le fait de vibrer, le fait d'être mis en vibration, ça va faire que les choses vont se placer, les choses vont et le son va s'améliorer. C'est-à-dire qu'un instrument qui n'est pas joué, ben il perd son potentiel sonore et il va falloir du temps. Il y a eu notamment l'exemple d'instrument luthier le plus célèbre que vous connaissez sans doute, Stradivarius, qui est un des noms les plus connus. Il y a des instruments à lui qui ont été retrouvés dans des greniers après qu'il n'avait pas été joué pendant 100 ans, 150 ans. Et au départ, c'était pas très probant. Il a fallu les jouer, et jusqu'à ce qu'il s'ouvre de nouveau, jusqu'à ce que l'instrument se mette vraiment en vibration et donne tout son potentiel. Voilà, ça c'était le chapitre instrument. Maintenant, je peux peut-être une petite pause musicale, et après, je vous parle un petit peu de ma vie de musicien aujourd'hui. Voilà, je parlais de quand j'étais gamin. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est saltimbanque et qu'on va se promener un peu partout pour jouer pour les gens. Voilà, donc là, je vais vous jouer. Je sais que vous avez eu du Bach hier, joué par Véronique. Outé aimerait bien avoir du Debussy, mais alors Debussy. Déjà avec Haydn, on avait besoin de l'orchestre, mais là avec Debussy, on aurait besoin de l'harmonie parce que chez Debussy, tout est harmonie. Non, je vais vous trouver. On va. Je vais trouver quelque chose. Si, j'ai une idée. Parce qu'hier, vous avez entendu une suite de Bach. Et pour nous, les violoncellistes, les suites de Bach, c'est très, très central dans notre vie. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, Bach, c'est qu'il a, il a créé quelque chose qui était totalement inimaginable. Parce que, au départ, notre instrument, il n'est pas fait vraiment pour être joué seul. En fait, il est surtout fait, j'en parlais au début, pour être marié à d'autres instruments, pour créer des accords, pour créer de l'harmonie. Et Bach, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a composé plus de 2 heures de musique pour cet instrument à une époque où personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça ou qui s'en approchait. Et lui, il a dit, moi, je peux composer une œuvre qui a la durée d'un opéra. C'est 2 heures et quart de musique, c'est aussi long qu'un opéra de Mozart. Sauf qu'au lieu d'avoir 30 chanteurs, 60 musiciens, la mise en scène, les décors, etc., juste un gars tout seul ou une dame toute seule, jouant son instrument avec 4 cordes. Et il a prouvé qu'on pouvait raconter 2 heures et quart, une grande histoire comme ça, avec juste cet instrument. Et il y a beaucoup de compositeurs, du coup, qui, ensuite, dans l'histoire de la musique, se sont inspirés de ça. Ils ont dit, la référence, le violoncelle seul, c'est Bach. C'est là. Et notamment, un compositeur anglais qui s'appelle Benjamin Britten, qui a vécu au XXe siècle, qui est mort, si je ne me trompe pas, en 1977, donc première partie du XXe siècle, il a vécu, et il a composé plusieurs œuvres pour violoncelle seul, pour le violoncelliste dont je vous parlais tout à l'heure, Rostropovitch, voilà, qui a inspiré plein de compositeurs, et il s'est beaucoup inspiré de Bach. Et voilà, je vais vous jouer le premier mouvement de sa deuxième suite pour violoncelle seul, qui s'appelle Declamato, déclamation. peut-être avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions, soit sur une des choses dont j'ai parlé, soit sur cette pièce, par rapport à ce que vous venez d'entendre.
Vous aviez parlé des gammes tout à l'heure, et vous aviez dit que le piano faisait des arpèges.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est qu'un arpège ?
Qu'est-ce que c'est qu'une gamme et un arpège ? Ou un arpège ?
Oui.
D'accord, tout à fait. La gamme, c'est effectivement des notes qui sont contiguës les unes aux autres. Donc, on monte les marches une par une, effectivement, dans l'ordre, ascendant ou descendant. Donc, des notes qui sont conjointes.
Je préfère juste récapituler la gamme d'abord. Donc, si je suis en La majeur. Là, j'ai fait deux octaves par gamme. Et l'arpège, c'est en fait... je vais le dire comme ça. L'arpège, c'est quand, au lieu de dire toutes les notes de la gamme, toutes les notes qui séparent, qu'il y a dans l'ambitus d'une octave, c'est où on ne joue que les notes qui forment un accord ensemble. Donc, en La majeur, toujours, au lieu d'être... Mon arpège, ça va être... en l'occurrence, je peux donner l'exemple, vous allez entendre séparément ce qui normalement est empilé l'un au-dessus de l'autre dans la sonate de Beethoven, pendant que le violoncelle fait... C'est ça. Le piano fait des arpèges descendants. Tout ça, c'était la arpège de mi majeur. Voilà. Et il combine les deux dans cette pièce-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout enfin, à tout ce qui nous concerne aujourd'hui. Sinon, je continuerai. Peut-être que je vais, avant de passer à autre chose, je voudrais dire un mot sur Britten, sur la pièce que je viens de jouer, en fait. C'est que vous avez un bon exemple de la manière dont un compositeur... je vais être un tout petit peu technique, mais 30 secondes. Donc, la musique, c'est l'art de l'agencement des sons dans la verticalité et dans l'horizontalité. Hein. C'est-à-dire que, pour faire court, c'est que la mélodie, c'est horizontal, c'est-à-dire qu'on combine des notes qui, les unes après les autres, vont former une mélodie. Et l'harmonie, c'est ce qu'on met en dessous et ce qui va créer... une harmonie, c'est-à-dire plusieurs sons qui sonnent ensemble et qui donnent un sentiment de « Ah oui, d'accord, je suis en La majeur, je suis en Do majeur. Enfin, » vous n'avez pas besoin de vous dire ça, mais votre subconscient entend quelque chose d'harmonieux. Voilà. Hein. Et il se trouve que le piano, l'accordéon, l'orgue, le clavecin sont des instruments, on appelle ça des instruments harmoniques, c'est-à-dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire que pendant que la main droite joue une mélodie, on s'accompagne avec la main gauche, c'est-à-dire qu'on va jouer, on va faire la verticalité, on va créer les accords, on va jouer ensemble plusieurs notes, et ça va créer l'harmonie. Donc on a le tout. Voilà, c'est pour ça qu'un pianiste, il suffit à lui-même. On lui donne un piano, on le met quelque part, et il peut commencer à jouer, mais des jours et des jours de littérature, il y a tout ce qu'il faut. Nous, on peut jouer deux notes à la fois, on appelle ça une double corde, mais au départ, on n'est pas fait pour ça. Nous, les instrumentistes à cordes, les violons, alto, etc. On joue une note à la fois. Donc, dans la très grande majorité des cas, on a besoin des autres. On a besoin d'allier ce qu'on joue, nous, à ce que font d'autres instruments pour créer l'harmonie. Mais, et le génie de Bach, c'était ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il a dit, mais moi, je peux créer 2h30 de musique, 2h15 de musique harmonique pour un instrument qui n'est pas un instrument harmonique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé, c'est-à-dire que quand je vous joue un arpège, justement, je vous, implicitement, même si je joue ces notes les unes après les autres, vous, dans votre tête, vous allez les mettre ensemble, vous allez dire, ah oui, d'accord, c'est mi majeur. Je vais vous donner l'exemple de deux exemples, d'abord de Bach, et je vais revenir ensuite à Britten, que j'ai joué maintenant. Je vais commencer par le prélude que vous avez entendu hier, que Véronique vous a joué. Do
Donc c'est exactement ça, ce que fait Bach, c'est qu'il crée, avec les arpèges, il crée du sol majeur. Ça c'est un exemple d'arpège. Les trois notes de l'accord de sol majeur. Et il va les... Donc je joue toujours une seule note à la fois, mais vous avez un tout qui s'appelle sol majeur. Vous êtes dans un accord et vous êtes bien parce que voilà. Et c'est quelque chose d'ailleurs que Bach s'amuse à faire aussi au piano. Hein, le fameux... Hein, le fameux, ça commence, c'est pareil, c'est aussi des notes individuelles qui créent une harmonie. Il y a le prélude de la quatrième suite de Bach, c'est pareil, c'est que des arpèges. Le prélude préféré de Jean-François, c'est que des arpèges et ça crée un sentiment d'harmonie. Mais parfois, ce que Bach s'amuse à faire, parce qu'il ne peut pas faire que des arpèges tout le temps, sinon on finirait par en avoir marre au bout d'un moment, c'est qu'il va commencer à jouer avec différentes voix. Comme s'il y avait plusieurs interprètes sur la scène, comme si on était trois là sur la scène, et il va s'amuser, je vais jouer une note d'une voix, puis une autre d'une autre voix, puis je vais revenir à ma première voix. C'est un peu comme un stand-up comédien, vous savez, qui, je ne sais plus comment on dit ça, excusez-moi, ça ne se dit pas. Stand-up, voilà, qui s'amuse à faire... donc, qu'est-ce que toi, tu as aujourd'hui là ? Ben quoi, il commence à faire un dialogue avec lui-même. Et nous, on fait ça avec notre instrument aussi, dans les suites de Bach. Je peux donner un exemple. Donc... C'est comme si mon personnage principal, il est là-haut, là, dans l'aigu. Donc, au-delà du fait qu'il nous a présenté la tonalité de Do majeur, Bach, en faisant ça, il crée de la vie, il crée du mouvement, il crée de l'énergie par faisant cohabiter de manière très rapide le soprano, la basse et la basse. Il y a même un de nos grands violoncellistes décédé il y a 2 ans, hélas, un Hollandais qui s'appelait Anner Belsma. Et il donnait beaucoup de masterclass, de cours aux violoncellistes, tout ça. Et quand les violoncellistes lui jouaient des morceaux comme ça, il leur demandait, comme travail pédagogique, pour vraiment changer, pour créer des sons différents, pour créer entre les différentes voix, il leur demandait de jouer une voix en regardant à gauche et les autres voix, l'autre voix en regardant à droite. On devait faire ça en cours, mais ça nous oblige à vraiment être conscient du fait qu'on doit être plusieurs personnes quand on joue un seul instrument. Et dans le Britten là que je viens de vous jouer, il y a ce thème principal qui apparaît au début. Et peut-être vous vous souvenez qu'à la fin, il ramène ce thème, comme font souvent les compositeurs, la forme cyclique. C'est-à-dire ensuite, on va se promener, on fait d'autres choses et on revient à ce qu'on disait au début. Sauf que à ce moment-là, ce qui était au départ un peu un monologue, comme quelqu'un qui lance un appel. Et bien, c'est devenu comme s'il y avait une voix venue de loin, venue d'un autre monde, ou quelqu'un qui lui répondait, comme si par la musique, le compositeur essayait d'entrer en contact avec quelque chose qui est très loin de nous. Et là, c'est un autre monde qui répond. Voix qui reste impassible et qui répète toujours cette cadence en ré majeur. Et là, on part de cette autre voix qui commence à bouger. C'est quelque part par cette dernière montée, on a ramené ensemble, on a rassemblé ces univers qui paraissaient tellement loin l'un de l'autre, pour surgir comme ça dans cette dernière montée. C'est un exemple de comment un compositeur, avec un instrument monodique, réussit à créer quelque chose qui ne soit pas toujours voilà, un mec qui joue de son instrument, quoi. Parce que ça pourrait devenir quand même assez rébarbatif. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, pour revenir à Bach, c'est qu'il avait mis sur son... sur l'aventure de son... de sa composition, de ses six suites, de son grand œuvre pour violoncelle, il a écrit six suites pour violoncelle seule, senza basso. Il a spécifié, il a dit sans basse, il n'y a pas de basse. C'est pour dire, moi, je vais réussir, je vais vous montrer, on peut écrire une pièce sans la ligne de basse. Mais la ligne de basse, elle est là, elle est virtuelle, elle est toujours présente et elle est quand même très centrale. Enfin bon, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Petite pause.
Alors avant de passer une pause, je vais vous faire une charade.
Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième est une note de musique. Et mon tout est aimé de tous. La famille est aimée de tous.
Ah, la famille. Ah, oh, presque. Ah, ouais, ouais, ouais.
Allez, 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 allez. La, do, l'adoré. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote suite à ça. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais raconté des histoires dans les jardins des Cordeliers. Et donc, j'avais fait cette charade. J'avais donc fait cette charade avant de commencer les contes. Et la sœur de Jean-François, qui est donc la tante de Jean-Guyenne et sa marraine, répond tout de suite, mais dans un cri, quand je dis mon premier, la première, mon deuxième et mon tout est aimé de tous, elle crie Jean-Guyenne.
Oh,
alors, moi,
ma marraine.
Oui, je dis, mais Annette... Jean, ce n'est pas une note de musique. Guy, ce n'est pas une note de musique. Anne, ce n'est pas une note de musique. C'est quoi ça? Et elle dit, mais parce que j'ai pris un taxi à Lyon et à la radio, elle entend les suites de Bach jouées par Jean-Guyenne. Et donc elle reconnaît son filleul et neveu. Elle reconnaît le chauffeur de taxi aussi. Connaissait Jean-Guyenne. Alors elle nous dit, ben, il est aimé de tous.
Oh.
Voilà, donc c'est donc, voilà, cette pause pour dire que, voilà, non, et oui, oui, bien sûr, hein, Jean-Guyenne et donc, les suites de Bach, les... enfin,
merci.
Non, mais les suites de Bach, Jean-Guyenne joue, pour des non-initiés, les suites de Bach, c'est un concert. C'est 6 suites d'affilée, c'est-à-dire 2h30 de Jean-Guyenne, 2h30 de concert, 3h d'affilée.
2h30, oui.
Seul, non mais parce qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire seul sur une scène, un public en face, seul sans partition. Voilà, c'est ça aussi. Je veux dire, pour les non-initiés, il faut vous rendre compte de ça. C'est-à-dire que quand on joue, quand on a cet instrument, comme dit Jean-Guyenne, c'est-à-dire qui est presque un prolongement de soi, c'est-à-dire depuis l'âge de 9 ans, c'est une relation viscérale, c'est quelque chose, enfin je ne connais pas cette relation, mais j'imagine que c'est ça, c'est quelque chose qui fait partie de soi, c'est-à-dire c'est ce concert, c'est marquant, hein, c'est-à-dire que 2h30, seul, sur scène, avec son violoncelle, sans partition. Vous voyez ce que...
Ah, voilà, on fait pas de pause finalement.
Thank you.
Le par cœur, pourquoi sans partition? C'est idéalement quand on joue une œuvre, quand on peut, en tout cas quand on a la possibilité de l'intégrer, de complètement vivre chaque note comme si c'était comme si on racontait une histoire, comme je disais au début. C'est mieux de plus avoir à se référer à la partition parce qu'à ce moment-là, c'est justement, c'est plus une question de quelle note je joue, c'est plus de... on fonce, on raconte, on se lance dans la pièce et on est pris dans le courant. Et voilà. Et du coup, on est plus convaincant, je crois, en fait, quelque part. Maintenant, on peut pas faire ça tout le temps. On passe, notamment là, par exemple, là, dans le festival, on joue des œuvres de musique de chambre on les a préparées chacun individuellement. Ensuite, on se retrouve pour répéter et pour mettre ça ensemble. Mais on peut pas apprendre toutes ces œuvres, par cœur. Et c'est pas un problème non plus. Mais c'est vrai que quand on joue du répertoire solo, si on a la possibilité de le faire, on se sent presque plus à l'aise. Alors peut-être... il y a une question là. Ah, oui. Alors, ces fameuses suites de Bach qui durent 2h30, je les ai appris petit à petit, au fur et à mesure des années. Et mon premier mouvement d'une suite de Bach, je me souviens, c'était la bourrée de la troisième suite, dont je pourrais jouer un petit extrait. Et je l'ai appris que quand j'avais, je crois, 11 ans. Thank you. Si je profite de ta question pour parler un petit peu des enregistrements, puisque c'est vrai qu'on avait évoqué le fait qu'on pourrait en dire quelques mots. Alors moi, j'ai commencé à faire des disques quand j'avais 25 ans dans une compagnie de disques française qui s'appelle Harmonia Mundi. Au départ, a commencé beaucoup avec la musique vocale. Ils faisaient beaucoup de musique vocale, beaucoup de musique ancienne, vocale, chœur, choses comme ça. Et puis, ils se sont ouverts de plus en plus à la musique baroque, musique classique, etc. Et voilà. Et moi, j'ai commencé à faire des disques avec eux dans un projet de musique de chambre. Voilà, on en parlait, parce que des copains avaient besoin d'un violoncelliste, un flûtiste et un pianiste. Philippe Bernold, flûtiste, voilà, qui m'a invité pour que je vienne jouer le trio de Weber et l'enregistrer avec lui pour cette compagnie. Et puis, la directrice du label de Harmonia Mundi m'a dit bah, on pourrait peut-être faire des choses en solo aussi, si vous voulez. Puis elle est venue à mes concerts, ça lui a plu. Et puis, on a commencé à faire des projets qui étaient plus, entre guillemets, mes projets. Donc, disons que moi, je l'initiais. Voilà. Donc, j'ai ensuite fait un enregistrement en solo, totalement solo, avec Britten, justement, qui a composé 3 suites. Donc, j'ai fait tout un disque autour de ça. Et puis après, j'ai enregistré plein de choses. Le concerto de Haydn avec un orchestre qui est basé à Freiburg. Voilà. Et donc, finalement, j'ai enregistré avec pas mal d'orchestres, mais finalement avec des orchestres qui étaient plus en lien avec cette compagnie de disques-là. Si je peux dire deux mots donc, sur ce processus d'enregistrement. L'enregistrement, pour nous, musiciens, c'est quelque chose de très particulier, très différent du concert, en tout cas tel que moi je le ressens. Et pour être honnête, pour moi, c'est un processus difficile. J'ai des collègues, vous connaissez peut-être Alexandre Tarot, pianiste, qui est venu au festival ici plusieurs fois, qui est un ami avec qui je joue beaucoup en duo, mais qui a enregistré lui un nombre de disques, mais c'est fou, je ne sais pas où il en est, il doit en être à 40 déjà, 40 CD, ou je ne sais pas. Il est comme un poisson dans l'eau quand il est au studio, quand il fait un disque. Et c'est tellement différent, parce qu'au départ, quand on devient musicien, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'envie de créer un son. Et puis, il y a des gens dans la salle qui prennent ce son et qui... Et j'ai l'impression d'être en dialogue avec les gens, vraiment. Et pour moi, d'être dans un studio avec un micro, ce contact avec les gens, il devient virtuel. Et je sais qu'il va y avoir, j'espère, qu'il y a des gens qui vont écouter mon CD ou mon enregistrement, mais ça va être à un autre moment, ailleurs. C'est pas maintenant, c'est pas ici et maintenant. Et pour moi, ce contact indirect, il est plus difficile. J'ai vraiment dû apprendre à apprivoiser ça, disons, ce processus, voilà, d'enregistrement. Et ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'enregistrement, comme les gens ils vont éventuellement réécouter le disque plein de fois, etc., ils font qu'il y ait une certaine perfection. Il y a des notes, quand on joue comme ça, quand je joue pour vous, là, tout à l'heure, il y avait des notes qui n'étaient pas parfaites, il peut y avoir un son qui fait un peu un squeak ou un truc comme ça, un petit bruit qui n'est pas du tout gênant en concert, qui fait partie de la vie même, j'ai envie de dire. Mais si c'est sur un support où les gens vont réécouter, au bout d'un moment, ils vont voir que ça, s'il y a une note qui est un petit peu à côté. Donc, on est obligé de chercher la perfection. Donc, on va rejouer très souvent le même passage jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Et c'est là le grand challenge du disque, c'est qu'il faut que ce soit parfait, mais il faut que ce soit aussi vivant, aussi libre que si c'était au concert, même plus, pour que ça passe. Il faut qu'il y ait plein d'énergie, plein d'initiatives. Donc, on peut pas juste chercher, ah bah oui, je joue les notes parfaitement. Ça suffit pas. Il faut qu'on ait tout. Il faut qu'on ait la vie, plein de vie, mais quand même, entre guillemets, propre. Donc voilà. Donc, il y a tout ce travail qui est vraiment exigeant. Après, il y a toute la post-production. Ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais je veux dire. Donc, ce qu'on soit, c'est que le producteur, celui qui a fait l'enregistrement, il va faire un montage. C'est-à-dire, il va prendre de ces différentes prises. On a fait plusieurs fois le même passage. Il va prendre la prise qui lui semble meilleure. Et puis, il fait ce qu'on appelle un montage, et il nous l'envoie. Et nous, on écoute ça, et on dit, ah, écoute, là, tu vois, à tel endroit, je trouve que la tension retombe un peu, est-ce qu'il n'y a pas une prise, on appelle ça une prise, où j'étais un petit peu plus, avec un peu plus d'énergie, ou au contraire, ici, j'aimerais bien que ça reste calme plus longtemps, est-ce qu'il y a une autre prise qui est différente? Et on essaie comme ça de construire ce qui est pour nous l'interprétation idéale, pendant ce qu'on appelle la post-production. C'est-à-dire, pas le travail au studio, mais après. Et une fois qu'on a cet objet acoustique qu'on estime vraiment, vraiment super et réussi, après, le reste, c'est moins important, mais il va falloir faire des photos, il va falloir écrire un petit texte pour expliquer pourquoi on a fait ce disque, pour essayer que les gens aient envie d'écouter. Donc, on leur raconte, on leur dit, voilà, moi, j'ai enregistré cette œuvre parce que je trouve que c'est une œuvre qui, pour moi, évoque ceci, évoque cela... Donc, de rendre ça très personnel, voilà. Et puis après, il y a toute une logistique derrière d'une maison de disques, les gens qui s'occupent de faire le livret, de faire que ce soit présenté de manière qu'on ait envie de prendre l'objet dans la main. Et ce qui est drôle, c'est que je vous raconte ça en sachant que vous êtes sans doute la dernière génération à avoir une notion de ce qu'est le mot CD, peut-être parce que vos parents en ont, mais maintenant, c'est vrai que c'est dématérialisé, c'est terminé, et c'est tout un univers comme ça qui passe. Mais je le dis sans énorme nostalgie parce que ça va faire aussi moins de plastique, moins de déchets, moins de trucs. Parce que c'est très souvent les CD où normalement c'est toutes ces boîtes de CD, c'est du plastique, c'est des trucs. C'est autre chose. Donc maintenant il n'y a plus cet objet. Et je me souviens qu'à l'époque où j'ai enregistré les suites de Bach par exemple, c'est pas pour m'enlever du mérite, mais je crois qu'une des raisons qui a fait que ce disque a été un tel succès, c'était aussi parce qu'ils avaient fait un magnifique travail. Ils avaient fait une espèce de boîtier comme ça, en carton qui s'ouvrait, tout dans des tons unis, noirs. Je me souviens que cet objet, on avait envie de l'avoir dans la main. Thank you. l'hygiène de travail avec l'instrument? C'est une très bonne question. Quand on est étudiant et qu'on est en train de se former, qu'on est en train d'apprendre des morceaux, qu'on est en train de se... Et puis en plus, on n'a pas encore beaucoup de concerts. Donc indépendamment des concerts, on va tous les jours faire 2, 3, 4 heures, parfois à l'instrument, vraiment pour apprendre des choses. Maintenant, c'est plus dépendant de mon activité de concert. Donc je dois avouer, là, quand il y a eu le gros lockdown, avril, là, j'ai fait une pause. J'ai posé l'instrument. J'étais content de faire d'autres choses. Alors, quand j'ai repris, évidemment, je l'ai senti. Hein. Les muscles, les doigts, le bout des doigts, ça faisait un petit peu mal. Et puis, on met du temps à retrouver les réflexes. Et même simplement la force musculaire, parce qu'en fait, c'est finalement assez physique de jouer. Mais sinon, en temps normal, il va y avoir... Je vais en faire un petit peu tous les jours et avec forcément une montée plus de... Donc je dirais, allez, une heure par jour. Et puis après, quand à l'approche des concerts, ça va monter à 2, 3, 4. Après, parfois, en raison... Là, pendant la période de festival, en plus, on a les répétitions. Moi, je dois travailler tout seul. Donc je vais arriver. Parfois, je vais être 6 heures sur mon instrument. Il y a des journées de folie où on est 8 heures sur son instrument. Passer d'une répétition à l'autre, tac, 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 voilà. Et là, on le sent, là. C'est quand même fatigant.
Ouais. Et vous composez des chansons?
Alors, je compose pas. J'ai des collègues interprètes qui composent. La seule chose que j'ai fait comme composition, c'est très relatif. C'est dans les concertos classiques, dont j'ai donné un exemple tout à l'heure avec ce Haydn, là. Il y a, par tradition, à la fin du premier mouvement, vers la fin, il y a un moment qu'on appelle la cadence, où l'orchestre s'arrête et où justement le soliste va normalement, en fait dans la tradition, improviser quelque chose. On dit, regardez, tac, 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 voilà ce qu'on peut faire, etc. C'est plus le morceau à proprement parler, c'est le soliste qui fait des petites pirouettes comme ça. Et puis ensuite, ça s'est développé de plus en plus et c'est devenu... presque des petits morceaux à l'intérieur du morceau. Et donc, moi, quand je suis dans les concertos classiques, Carl Philipp, Emmanuel Bach, Haydn, choses comme ça, ou Vivaldi même, choses comme ça, quand il y a des moments de cadence, Boccherini, je les compose moi-même. Et je m'amuse avec ça. Je prends des éléments du compositeur et puis je construis quelque chose avec, une petite histoire comme ça. J'aime bien faire ça. Thank you. Ah si, la caisse de résonance, absolument, elle a une très très grande importance, sinon on ne s'embêterait pas à acheter ces instruments qui coûtent une fortune, sur les différents. Mais la corde a aussi une grande influence, mais là j'ai envie de dire, c'est les cordes, si tu veux, c'est plus un petit peu, il y a deux mondes, voilà. Donc moi je joue selon ce que je joue et selon les orchestres avec lesquels je joue parfois, la plupart du temps, ce qu'on appelle un montage moderne, c'est-à-dire avec des cordes en métal. Et puis, de temps en temps, pour certains projets, je vais mettre des cordes en boyau et jouer à l'ancienne. Voilà.
Oui, je crois que là, malheureusement, il va falloir
s'arrêter.
Oui, Jean-Guyane, merci.
Merci à vous.
Merci vraiment.
Merci d'être là.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur le site de Jean-Guyane.
Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai un site web, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, donc voilà.
Ah oui!
Amusez-vous, voilà. On me fera plaisir.
Donc, et
envoyez-moi vos questions.
Voilà,
ça peut être... Super, merci, on est content que vous soyez là en tout cas. Hein. Super, profitez bien de votre séjour.
Je remercie les rencontres musicales en Haute-Provence et Jean-Guillaume Carras pour ses conférences et ateliers. J'ai écouté un peu cette conférence atelier pédagogique après la pause, il y avait quand même pas mal d'arrière-bruit. En tout cas, moi, je vais le mettre intégral sur mon site internet rz.jazz.free.fr sous la catégorie Écouter d'émission. Vous avez écouté en début une suite de Benjamin Britten, la suite numéro 2, opus 80, Declamento Lago, interprété par Jean-Guillaume Keras. Ensuite, vous avez écouté les suites de Johannes Sebastian Bach, des suites pour violoncelle seul. On a écouté la prélude, c'est la première suite et aussi l'allemande. Après, on a écouté de la troisième suite la bourrée. De la quatrième suite, on a écouté aussi la prélude. Suivi un concert dans le cadre de 26e victoire de la musique. C'était un concert de Haydn chez le concerto numéro 1. Le conducteur était Julien Leroy et Jean-Guillaume Keras était au violoncelle et courtait malheureusement un petit peu. Et le dernier morceau, vous avez écouté, tiré du nouveau CD qui vient de sortir sous la belle Harmonia Mundi, Complice, Jean-Guillaume Keras, Alexandre Tarot, les morceaux de Joseph Haydn, Divertimento in D, Allegro di Molto. Et le dernier morceau, vous avez écouté, tiré du nouveau CD qui vient de sortir sous la belle Harmonia Mundi, Complice, Jean-Guillaume Keras, Alexandre Tarot, les morceaux de Joseph Haydn, Divertimento in D, Allegro di Molto. Montage et enregistrement, Ute Müller.